Quand, de prime abord, nous nous trouvons en présence d'une réalité contradictoire, paradoxale, cela signifie, au dire de Newman, que nous avons affaire à une réalité riche et profonde, que nous sommes appelés précisément à creuser et à explorer plus avant. Le caractère choquant et déconcertant du paradoxe éveille et stimule l'esprit dans sa recherche de compréhension et d'intelligence. Cela est vrai en particulier pour les paradoxes chrétiens, comme nous l'avons vu à l'émission précédente. Lorsqu'elle nous parle d'un Dieu en trois personnes, ou de l'incarnation, ou de la résurrection du Christ Jésus, notre foi chrétienne nous propose des réalités immenses, inépuisables. Ce ne sont pas là de simples problèmes que nous pourrions placer devant nous, maîtriser et solutionner à coup de raison et de preuves, mais ce sont des mystères qui nous englobent et qui nous dépassent. Un mystère n'est pas quelque chose d'absurde, que nous ne pouvons pas comprendre, mais quelque chose que nous n'avons jamais fini de comprendre. Ainsi, les mystères de la Trinité, de l'Incarnation ou de la résurrection du Christ, loin d'être dans leur étrangeté même des blocages pour notre intelligence, demeurent, quand nous acceptons de nous laisser ébranler par eux, de vigoureux et féconds stimulants pour notre esprit. Ils nous font comprendre des réalités que nous n'aurions jamais pu imaginer. Ils nous ouvrent des perspectives inouïes sur notre vie, nos origines, notre identité, notre destinée. Il est merveilleux de découvrir que tous les mystères essentiels de notre foi chrétienne convergent, pour ainsi dire, chacun à leur manière, pour nous dire que Dieu nous aime, qu'il n'est qu'amour, qu'il s'est littéralement donné des mains et des pieds pour nous rejoindre et nous partager en Jésus ressuscité sa plénitude de vie. Le vieux Saint Jean, comme pour résumer le cœur de son expérience de rencontre avec Jésus, traçait ces mots de feu dans sa première épître. Et nous, nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est à partir de ces trois derniers mots, résumant le christianisme, que selon Malraux, l'histoire a basculé. Gilbert Cesbron, dans son livre « Ce que je crois », a le commentaire suivant. Comme l'aimant qu'on maintient sous un papier condense et oriente la limaille éparse sur la feuille, l'amour coordonne tous les mystères du christianisme. La définition de Saint Jean, Dieu est amour, est l'équation fondamentale. Comme la célèbre formule d'Einstein, E égale MC2, constitue, paraît-il, la clé de l'univers, ces trois mots, Dieu est amour, fournissent à mes yeux la seule solution à l'énigme de l'humanité. Cette affirmation centrale de notre foi chrétienne, quand nous nous arrêtons à y penser et tentons de l'approfondir, demeure toujours bouleversante, révolutionnaire, explosive. Il faut être un peu, beaucoup prétentieux, nous devons l'avouer, pour parler de Dieu et des choses de Dieu. Qui sommes-nous pour décider de son existence à partir de notre logique et de nos preuves? sans doute la pureté du cœur, plus que l'intelligence savante, s'impose-t-elle pour nous donner accès au mystère divin? Une des difficultés majeures, probablement la difficulté la plus fréquente dans le domaine de la foi, se trouve dans la coexistence paradoxale entre le Dieu amour et la présence du mal dans le monde et dans l'histoire. Comment réconcilier ces deux réalités qui ne vont pas ensemble? Quel croyant ne s'est pas un jour posé cette question? Personne n'échappe au dilemme, et la question demeure pour beaucoup une pierre d'achoppement. Le mal n'est-il pas un déni de l'existence du Dieu amour? En décembre dernier, un de mes amis me faisait parvenir, avec ses vœux de Noël, des réflexions suivantes. Je nage encore entre l'incroyance et la croyance, et même Newman n'arrive pas à me convaincre. À la messe de minuit, le célébrant déplorait l'année 2005 pour ces désastres naturels tellement désastreux et coûteux en vie humaine. Or, dans ma petite tête simpliste, je ne comprendrai jamais comment un Dieu bienfaisant, omnipotent et omniscient peut tolérer de telles choses. Si la vie humaine est tellement importante qu'il faut interdire toute forme d'avortement, de contrôle de naissance, pourquoi laisser périr tant d'enfants aussi innocents que leurs parents? Cette question immense, on se la pose depuis les débuts des temps et dans toutes les religions. Il faudrait évidemment plus d'une émission pour scruter le paradoxe de la coexistence de Dieu et du mal. Nous pouvons du moins fournir ici quelques pistes d'approfondissement en déblayant le terrain et en éclairant les éléments du dilemme. Pour ne pas nous perdre, abordons la question par le biais de la souffrance qui est révélatrice du mal à tous les niveaux de la réalité. Le thème de la souffrance est un sujet de réflexion fort délicat. On ne saurait parler de la souffrance avec le froid détachement du savant devant l'objet de ses recherches. De fait, la souffrance comme telle n'existe pas. Ce qui existe, c'est une personne qui souffre. La souffrance n'existe pas en dehors de soi. Elle est toujours la souffrance de quelqu'un. Elle est toujours ma souffrance. Que faire devant quelqu'un qui souffre? Ce ne sont sûrement pas les beaux discours ou les beaux raisonnements qui peuvent apaiser la souffrance des autres. Il vaut mieux pudiquement, respectueusement, se taire, compatir, soutenir de sa tendresse et de son amour la personne qui se trouve en travail de souffrance. À quel titre pouvons-nous parler de la souffrance des autres? N'est-il pas préférable?